Vous êtes sur RTL.
Vous allez vraiment les maintenir coûte que coûte?
Pour moi, oui. Après, je suis un amoureux du sport, donc c'est vrai que le sport passe avant beaucoup de choses. Après, il faut aussi penser à tous les athlètes qui s'entraînent depuis de très longues années, et spécifiquement depuis 4 ans. Et c'est leur moment, et ça aurait été dommage de leur enlever ça.
Mmh. Vous êtes professeur de judo, Mathias?
C'est ça.
Donc j'imagine que vous êtes hyper sensibilisé à notre porte-drapeau et à l'histoire que vient de nous raconter Jean-Michel sur David Douillet.
Exactement. Je ne connaissais pas cette anecdote sur Douillet. Mmh.
Donc qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces Jeux?
Du spectacle, déjà. On sait que le Covid, c'est un petit peu nivelé tous les athlètes. Et on a eu pas mal de surprises sur les compétitions cette année. Donc on peut s'attendre à ce que les petits montent sur le podium et à ce que les grands descendent.
Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Michel?
C'est toujours le risque lorsque l'on débute une compétition, que les petits bousculent les gros. C'est vrai, par exemple, qu'il y a une question autour de Teddy Riner, dont on a appris il y a quelques heures, c'était dans un documentaire diffusé hier soir, qu'il avait été gravement blessé au genou, lésion d'un ligament interne à 80% il y a 4 mois, donc pratiquement 2 mois et demi sans judo, 3 mois sans sport de compétition. Et donc, il y a une interrogation autour du colosse du sport français. Pourra-t-il gagner un troisième titre consécutif, ce qui ferait de lui le lourd le plus médaillé de l'histoire du judo?
Mathias, qu'est-ce que vous en dites? Vous y croyez, vous?
J'y crois. Ça va être plus compliqué qu'à Rio. À Rio, il s'était un peu baladé. Là, entre le Covid, les blessures, le tirage qui n'est pas facile. Il prend trois costauds dans son quart de finale. Donc, après, on a vu qu'il avait perdu beaucoup de poids, qu'il avait mis en place d'autres contenus d'entraînement cette année, donc pourquoi pas. Il a été de plus en plus rassurant sur les dernières compétitions, donc à voir, on n'est pas à l'abri non plus. Mais
Préciser qu'il n'est pas effectivement tête de série parce qu'il n'a pas fait beaucoup de compétitions, donc il s'est retrouvé au tirage au sort comme un judoka parmi tant d'autres, et effectivement le tirage au sort n'a pas été très chanceux avec lui, mais j'ai l'impression qu'il est surtout difficile pour ses adversaires, parce que Riner reste le judoka.
Il fait peur quand même.
Exactement.
Bien, merci d'être intervenu, Mathias. Merci.
Merci à vous.
Bonne journée à
vous.
On va poursuivre cette conversation dans un instant avec Ellie, qui nous appelle du Tarn. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.com.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Allez-vous suivre ces Jeux Olympiques 2020, décalés d'un an? On est en plein dans la cérémonie d'ouverture. Isabelle Langer, vous êtes à Tokyo pour RTL. Très coloré le spectacle là pour l'instant.
Très coloré, c'est vraiment magnifique, de très belles couleurs. Ça a commencé par un sublime feu d'artifice. Et puis après, on a vu l'entraînement des sportifs, que ce soit sur un tapis de course, à un vélo connecté, pour nous faire voir aussi que le monde est connecté aujourd'hui. Mais pour rappeler qu'un sportif de haut niveau, ça s'entraîne beaucoup. Mais ça pouvait aussi rappeler à chacun d'entre nous ce que tout le monde a fait un petit peu chez soi pendant les différents confinements dans les différents pays ces dernières 12 mois. Donc voilà, beaucoup de références comme... la chorégraphie qui a lieu en ce moment où beaucoup de danseurs sont reliés par des fils qui représentent un petit peu bien tous les muscles du cœur ou du corps et qui travaillent encore une fois pour les athlètes.
C'était très poétique. À tout de suite, Isabelle, vous continuez, vous n'hésitez pas, vous nous rappelez quand vous voulez pour nous faire vivre cette cérémonie. Jean-Michel Rascol, est-ce qu'on sait déjà à quoi va ressembler la cérémonie de Paris 2024? On a déjà une petite idée ou pas?
Non, l'idée à l'heure actuelle, c'est de non pas cantonner la cérémonie dans le stade olympique, qui serait le Stade de France, mais de créer une cérémonie dans la ville, dans Paris,
dans la ville,
au centre de la capitale, de l'hôtel de ville à la Concorde, en passant bien sûr par les Champs-Élysées. Voilà l'idée. L'idée a fait son chemin, ça s'est produit une fois dans l'histoire olympique, mais c'était les Jeux de la jeunesse à Buenos Aires, il y a quelques années, ça avait séduit le CIO, et cette idée a fait son chemin jusqu'à Paris 2024.
Ça va quand même poser gros problèmes de sécurité.
Par exemple, oui.
Voilà, puis ce serait bien qu'on n'ait plus le Covid dans les pattes aussi à ce moment-là. Bonjour Ellie.
Bonjour.
Vous nous appelez du Tarn. Vous allez suivre ces Jeux, vous, avec ferveur?
Oui, au boulot, on regarde un écran sur le côté de la cérémonie et puis les
Je précise qu'au boulot, c'est à la rédaction, parce que vous êtes journaliste, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc on a un écran avec avec les JO. C'est vrai que la petite difficulté, c'est le décalage horaire quand même. Certaines épreuves de vélo, pour voir le vélo samedi matin, ça sera très très tôt ou très tard si on finit pas la nuit. Donc
oui, parce qu'il y a 7 heures de décalage hein, avec avec le Japon.
3h30, 4h du matin pour voir le début de l'étape en ligne.
Mais c'est un peu magique en fait de se lever la nuit pour regarder une discipline qu'on adore. C'est ça la magie des jeux. Quoi.
Oui, on a l'impression d'être totalement à côté des sportifs et de vraiment suivre, c'est la vraie passion. Mmh. Donc c'est quelque chose de super aussi. Je ne vous garantis pas que je vais le faire tous les jours, mais
on
le fera un petit peu.
On ne vous en demande pas tant. Et le fait qu'il n'y ait pas de public, vous pensez que ça peut changer le résultat?
Oui, alors ça, j'entendais l'auditeur d'avant en parler et c'est vrai qu'on l'a bien vu. Foot en France, par exemple, il y a eu moins d'effets publics. On a bien vu pendant l'Euro aussi, il y avait parfois pas toujours des jauges pleines. Et d'un autre côté, je pense que ça va retirer un peu de beauté au spectacle. C'est vrai que si on a regardé hier soir le documentaire avec Teddy Riner, on voit le public derrière, ça donnait quelques frissons et j'ai peur qu'on en ait quand même moins cette année.
Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça ne modère pas pour autant l'intérêt que le public peut avoir pour les Jeux. Il y a un sondage Odoxa Kenéo RTL qui paraît là dans les heures qui viennent et qui nous montre justement que plus d'un Français sur deux vont s'intéresser à ces Jeux, malgré le huis clos donc visuel et aussi malgré ce décalage de plus 7 heures pour Tokyo. C'est vrai qu'il va falloir soit se coucher très tard, soit se lever très tôt, mais il va falloir changer ses habitudes si on veut vivre à l'heure des Jeux.
Mais je pense aux épreuves d'athlétisme, par exemple, quand on fait un 100 mètres, on a quand même besoin d'être poussé par le public.
Ça, ah oui, ça va si vous êtes acteur.
Non, mais ça, oui, je pense à ceux qui courent, voyez-vous.
Oui.
Et je me dis, mais ça va être terrible pour eux quand même. Il va leur manquer l'essentiel, non?
C'est vrai que le successeur d'Usain Bolt sur 100, 200 et sur le 4x100 n'aura pas le même souffle derrière lui,
dans
celui de 100 000
de cathédrale,
spectateurs.
Ou presque, hein, parce que là, si on est toujours sur une jauge à 900 personnes, ça va être très très peu quand même. C'est spécial.
C'est spécial. Ils s'y sont préparés parce que ils se sont préparés, notamment par exemple à la chaleur, l'humidité, mais aussi à cette absence de public. Fallait-il faire les Jeux sans public ou ne pas les faire du tout? On a choisi de les faire sans public par mesure de sécurité sanitaire.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Élie, du fait qu'il n'y ait pas de public, justement?
Oui, ça sera, on vibrera moins, c'est ce que je pense. Mais d'un autre côté, les JO, c'est vraiment tellement exceptionnel, tellement tous les 4 ans, qu'il y aura forcément la belle histoire. L'athlète, la surprise et qui nous procurera quand même des émotions, enfin du moins ce que j'espère, mais voilà, on aura l'athlète d'un petit pays qui brillera sur une épreuve, on aura la surprise du géant tant attendu, j'espère que ça ne sera pas contre un Français, mais qui est chaud.
Vous misez sur qui, vous, Élie?
Bah, forcément le judo, je pense qu'on peut avoir si on a un maximum de chance et de réussite en judo, on peut avoir un bon des inscriptions dans les écoles de judo l'année prochaine, en septembre. Et après, forcément, les sports collectifs, on a toujours, je vibre un peu plus aussi, voilà, pour le handball, le basket, qui peuvent toujours décrocher une médaille, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Voilà. Y a
le volley aussi.
Le volley, bien sûr. Voilà, on reconnaît, en fait, on cherche dans les listes des participants des noms qu'on connaît à force, même s'il y a un renouvellement de génération, il y a encore pour le volley, au handball, il y a encore des personnes comme Luc Gabalo, donc il y a encore des noms qu'on connaît qui ont marqué l'histoire, et du coup, c'est ce qu'on cherche aussi, et puis en découvrir d'autres, des nouveaux, voilà.
Vous citez Luc Gabalo, son cas est assez extraordinaire parce qu'il a signé à l'étranger en début de saison dans un club qui n'a pas du tout joué à cause du Covid. Il aurait dû arrêter prendre sa retraite et au contraire, il a prolongé, il a espéré, il s'est entraîné tout seul, il est revenu en France, s'est entraîné pratiquement tout seul pour rejoindre l'équipe de France et tenter ce dernier pari. On peut vraiment, vous savez que c'est un artiste, hein, il peint, il crée des peintures, Luc Gabalo, et il sera bien avec l'équipe de France de handball à Tokyo.
Voilà, il n'y a que de belles histoires à raconter. Merci Jean-Michel, merci Élie, à bientôt.
Merci à vous.
À bientôt, bonne journée. On poursuit cette conversation dans un instant avec Willy.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Avec Jean-Michel Rascol qui est à mes côtés, avec Isabelle Langer en direct de Tokyo qui suit la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pour nous, Isabelle, les officiels ont pris place.
Oui, Les officiels ont pris place, notamment l'empereur Naruhito avec le président du comité international olympique Thomas Barr, et surtout à l'instant le drapeau japonais a été élevé. Il est surtout arrivé sur ce stade olympique porté par quatre athlètes mais aussi un handicapé et un personnel de santé pour rendre hommage encore une fois à tous ces gens qui se battent depuis plus d'un an face à la pandémie. Il a été ensuite hissé par les personnels de la défense japonais, notamment des pompiers, des policiers, accompagné bien sûr par l'hymne japonais. Moment encore une fois tout en douceur de la part de ces Japonais depuis le début de cette cérémonie. Naruhito qui prononcera bien tout à l'heure l'ouverture de ces Jeux, comme l'avait fait son père Akihito à Nagano en 98. Jean-Michel, vous y étiez. Et son grand-père Hirohito au JO de Tokyo en 64 et ceux de Sapporo en 72.
Et là, il n'y était pas, Jean-Michel.
En 72, non. Mais Isabelle, vous qui aimez la danse et l'esthétisme, vous êtes servie.
Ah, je me régale, c'est magnifique. Franchement, c'est une très très belle cérémonie d'ouverture pour le moment. Et vraiment, on se régale.
Ça a l'air extrêmement poétique, effectivement. Merci Isabelle, vous nous rappelez tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bonjour Willy.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu. Alors vous êtes un grand sportif. Je vois sur ma fiche que vous avez été champion en 2019 de jiu-jitsu brésilien. Alors expliquez-moi, parce que moi je ne connais pas bien cette discipline.
Tout à fait. Du coup, donc le jiu-jitsu brésilien, en fait, ça va être un mélange de lutte, de judo. Donc, on va démarrer. C'est vraiment un sport d'appréhension. C'est pas un sport de percussion. On va démarrer debout. Il y aura des amenés au sol, mais une fois qu'on est au sol, nous, on va chercher vraiment la soumission. Donc, il faut vraiment, chercher la soumission pour gagner le combat.
Pour un sportif comme vous l'êtes, de haut niveau, c'est le Graal, les Jeux Olympiques.
Tout à fait, les Jeux Olympiques, c'est le Graal, il n'y a rien au-dessus. Mm-hmm.
Et là, vous suivez la cérémonie, là ?
Oui, je suis devant, je suis la cérémonie, et c'est super, c'est très émouvant, et ça nous fait du bien de revivre des grands événements sportifs, et ça fait du bien.
À votre avis, dans quel état d'esprit sont les athlètes, en sachant qu'il y a quand même le Covid qui complique singulièrement les choses depuis leur arrivée à Tokyo? Il y a des conditions sanitaires particulièrement drastiques, ça peut être aussi déstabilisant. Vous, en tant qu'athlète, vous pensez qu'ils vivent ça comment?
Écoutez, ça fait déjà plus d'un an qu'on est dans cette situation-là. Donc les athlètes, ils ont eu le temps de s'adapter, donc ils sont adaptés et ils sont entraînés pour, et ils savent très bien que ils vont rester isolés, il y aura plusieurs épreuves à surmonter, mais ils sont entraînés pour et ils sont adaptés à la situation.
Ils sont préparés mentalement, en fait, Jean-Michel ?
Ils sont préparés mentalement et ils sont préparés aussi à affronter des paramètres comme ceux de la chaleur et de l'humidité.
Oui, alors là, en ce moment, il fait très très chaud.
Voilà, il va faire très très chaud. Il faisait très très chaud en 2019 lors des pré-olympiques. L'an dernier, si les Jeux avaient eu lieu, le climat était plutôt favorable et il fait à nouveau très chaud cette année. Alors les Français, par exemple, se sont préparés dans un caisson hyperbare à l'INSEP où on a pu recréer les conditions, la chaleur, l'humidité, notamment pour les athlètes de demi-fond et de fond, 5000, 10000 par exemple en athlétisme, où on a essayé de les faire courir le plus vite possible à 40 degrés avec 80% d'humidité. Ce sera peut-être les conditions, notamment pour les marcheurs, même si cette épreuve de marche a été déplacée à Sapporo, où on espère qu'il y a quelques degrés de moins.
Qui fera un peu meilleur, c'est assez extraordinaire. Vous attendez des médailles dans quel domaine, Willy ?
Moi, j'attends les médailles de Teddy. J'espère qu'il va remporter la. Et je pense que le judo va performer.
Eh bien, écoutez, on croise les doigts. En tout cas, l'objectif, Jean-Michel, c'est une quarantaine de médailles.
C'est ce qu'a répété le président de la République il y a quelques minutes chez nos confrères de France Télévisions. Il y avait eu 42 médailles à Rio et 10 médailles d'or. C'est là le record. Alors qu'à Pékin, il y avait 43 médailles, Christelle, mais 7 médailles d'or. Et ce sont les médailles d'or qui priment. Oui. Donc, le record, c'est bien celui de Rio il y a 5 ans. L'objectif, c'est d'apparaître dans les 5 meilleures nations du monde dans 3 ans à Paris. Va quand même falloir démarrer.
Va falloir y aller. Bonjour Lily.
Bonjour.
Vous êtes retraitée. Je peux donner votre âge ?
Oh, bah, si vous voulez. Hein.
83 ans, passionnée par les jeux ?
Non, pas tellement. Non, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le cyclisme.
Ah, le cyclisme.
Voilà, alors j'attends de nos coureurs quelques belles performances.
Donc vous sortez du Tour de France, mais vous n'en avez pas eu assez, finalement.
Ben voilà. Surtout, j'ai été un peu déçue qu'au Tour de France, on ne parle jamais du dernier.
Ah ben.
Dans les temps, quand j'étais très jeune, c'est ils vrai. N'arrivaient pas sur les Champs-Élysées. Ils arrivaient dans un... je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais le dernier portait la lanterne rouge.
Ah oui, ah ben d'où l'expression.
Et c'était tout un... Il avait droit à son tour d'honneur et tout. Mais là, non, je trouve d'abord que les Jeux Olympiques n'auraient pas dû avoir lieu. Parce qu'avec le Covid, non, je ne suis pas pour... Il a fallu une préparation spéciale pour tout le monde. Il a fallu... Ça a fait des frais énormes. Hein. Il faut penser à tous ces athlètes.
Alors, c'est vrai que ça a coûté, ce sont les jeux qui ont coûté le plus cher, Jean-Michel. Hein.
C'est comme ça à chaque fois, mais on est au-delà des 14 milliards de dollars. Oui.
Ouais, ouais. Et le Covid a changé la donne, évidemment. Mais les Japonais sont farouchement contre les jeux.
Alors, leur intention, leur avis a changé au fur et à mesure du report. Ils étaient franchement pour les Jeux Olympiques, de 2020. Et forcément, avec la pandémie, ils se sont retrouvés un petit peu face à un mur et se sont prononcés ces dernières semaines, franchement contre les Jeux Olympiques. Donc ce sont des Jeux Olympiques sans l'adhésion des Japonais et sans même l'adhésion de gros sponsors du CIO qui sont des sponsors japonais.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est pour ça.
D'ailleurs, madame, vous aurez l'occasion de voir plusieurs épreuves de cyclisme durant ces Jeux. Bien sûr, le cyclisme sur route, la course garçon a lieu dès demain, mais aussi le VTT. Il y a une jeune femme qui s'appelle Loana Lecomte, une petite bombe sur son VTT. Elle vient d'Annecy qui fait de remarquables performances. Et puis, il y a aussi le BMX. Alors, le BMX, c'est plus pour les jeunes. Christelle en fait de temps en temps dans RTL. Il s'agit d'affronter un parcours de bosses et de sauts, mais les Français ne manque pas de dextérité dans cette discipline.
Le BMX. Une dernière question, Jean-Michel, et puis après, je vous rends votre livre, Berthé. Comment vous voyez l'avenir là, avec les Jeux de 2024? Parce que là, c'est une bonne mise en jambe.
C'est un tremplin. Pour l'équipe de France, c'est un tremplin. Vous savez, il y a encore quelques mois, il y a une ministre des Sports qui avait dit à Paris, il faudra gagner 80 médailles. On ne gagnera pas 80 médailles à Paris, mais si on peut, entre-temps, faire de la France une nation sportive, avec des enfants qui vont tous les jours faire du sport lorsqu'ils sont à l'école, ce sera déjà une belle médaille d'or.
Ce sera très bien. Et on venait d'entendre à l'instant un extrait de la cérémonie d'ouverture. On refera très vite un petit point avec Isabelle Langer qui nous fait vivre cette cérémonie en direct de Tokyo. On fait une pause et dans un instant, on change de sujet. On en vient au pass sanitaire.
Les auditeurs ont la parole
avec Christelle Roby.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
On change de sujet, on évoque avec vous au 3210 ce pass sanitaire qui devrait être obligatoire pour rendre visite à des proches dans les hôpitaux et les EHPAD. Le gouvernement, en tout cas, a rétabli cette mesure qui avait pourtant été amendée dans le projet de loi au nom de l'urgence sanitaire. Vous savez que ce projet de loi est toujours en examen au Parlement, donc les choses peuvent bouger. Mais j'avais envie de vous entendre sur cette nouvelle mesure. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Eh bien, écoutez, pour moi, c'est absolument obligatoire que les gens soient vaccinés. C'est une question du respect de l'autre. Et c'est par l'extérieur qu'on va amener le Covid dans l'hôpital.
Mmh.
Et bon, j'ai un fils qui est médecin, qui est aux urgences et qui a chopé le Covid par des personnes non vaccinées. Mmh. Et je pense que les malades ont déjà suffisamment à lutter contre leur maladie, leurs infections et tout ça, sans qu'en plus de l'extérieur, on puisse leur amener ce Covid.
Alors là, ça ne concernera pas les urgences, hein, bien sûr, parce qu'il faut traiter, faut quand même s'occuper des gens quand il y a...
Absolument.
Vous voyez, hein, donc potentiellement votre fils,
il l'a eu, et puis maintenant il est vacciné, donc maintenant ça va. Mais
oui, c'est ça. Il ne prend plus de risques.
Tout le monde est vacciné. J'ai 4 enfants. Les 4 sont vaccinés. Hein.
Mais c'est compliqué quand même aussi. On peut peut-être entendre ça pour ceux qui vont visiter un proche qui est en fin de vie. S'ils doivent attendre, par exemple, encore un mois pour se faire vacciner.
Ah oui, bah ça justement, j'habite dans le fin fond de la Manche. Et
vous êtes du côté du Mont-Saint-Michel, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et là, le problème, c'est que y a des jours avec des vaccinations sans rendez-vous. L'autre jour, il y avait 400 personnes qui étaient sur le trottoir. Il y avait 48 doses.
Oui, ah ben en ce moment, il y a une grosse ruée, effectivement, sur les vaccinations. Restez avec nous, Adrien. On a aussi Yannick qui souhaiterait intervenir, qui nous appelle des Vosges. Bonjour, Yannick.
Bonjour.
Vous êtes vacciné ou pas?
Non.
Alors, donc, vous acceptez l'idée de ne plus pouvoir rendre visite à un proche à l'hôpital ou de ne pas pouvoir vous-même vous rendre à l'hôpital, sauf urgence?
Je suis une personne à risque, comme ils disent. Je suis sous biothérapie. Oui. Donc, j'ai vu mon rhumatologue le 29 avril. Il était plus inquiet que je ne veuille pas faire le vaccin de la Covid que savoir si ma biothérapie marchait.
Oui. Mais il y a incompatibilité ou pas?
Moi, je n'ai pas envie de le faire parce que c'est mon droit.
Oui, voilà. Mais vous pouvez le faire en théorie.
Ils me disent que je dois le faire parce que je suis une personne à risque, je peux attraper la grippe, je dois faire le vaccin de la grippe. Je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai ma biothérapie, donc je ne vois pas l'intérêt pour moi. Personnellement, je parle pour moi, je ne parle pas de Pierre, Paul, Jacques. Je parle pour moi, je ne vois pas l'intérêt de faire ce vaccin-là. Pour moi, il n'y a pas assez de recul sur le vaccin.
Et si vous avez besoin d'aller à l'hôpital parce que vous avez un rendez-vous pour votre biothérapie, vous ne pouvez pas y aller?
Je n'irai pas. J'en ai un en septembre, je vais l'annuler. Je n'irai pas. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Je ne vais pas en mourir. Hein.
Et vous prenez le risque?
Le risque, c'est quoi comme risque?
Vous dites que vous êtes une personne à risque, c'est assez étonnant.
C'est ce que les gens disent, quoi. Vous voyez, on met 5 millions de personnes dans une case, on dit que c'est des personnes à risque. Donc moi, je ne vois personne, je suis chez moi, je respecte les gestes barrières quand je sors, je mets un masque, je sors une fois par mois.
Et si vous ne pouvez pas vous faire soigner, c'est quand même embêtant, non?
C'est embêtant. Pourquoi? Après, c'est embêtant. Après, c'est la vie, je dirais. Hein. Vous savez, on vient au monde, et puis il y a quelques temps, quand c'était Pascal Praud, on a parlé de la mort. Sur RTL, on a parlé de la mort. On doit tous mourir un jour ou l'autre. Donc, on meurt dans 10 ans, dans 5 ans. On finira tous pareil, hein, 3 mètres sous terre.
Oui,
ou
donc
dans
vous, finalement, vous êtes fataliste, Covid ou pas Covid, ça ne change rien dans votre vie, quoi.
Eh bien, ça ne change pas. Vous voyez, ils mettent un passe sanitaire pour ne plus aller au restaurant. Les gens, c'est ridicule. Parce que là, les 3 millions qui ont sauté sur le téléphone pour appeler « Allô Covid, machin, je veux me faire vacciner vite », la plupart du temps, vous demandez à 90% des gens, c'est juste pour pas perdre leur, soi-disant, leur liberté de pouvoir aller au restaurant, au cinéma, voyager, ceci. Moi, j'y vais pas, moi. Là, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Le restaurant, j'y suis allé il y a 2 ans, ça fera 2 ans au mois de décembre. Le cinéma, ça fait 2 ans. Au concert, voilà, j'ai 52 ans à la fin de l'année, j'ai déjà pas mal vécu. En boîte de nuit, j'ai travaillé pendant 5 ans. Donc,
vous l'avez, Yannick, et que potentiellement vous contaminez quelqu'un, parce qu'il paraît que le variant Delta est beaucoup plus contagieux.
Vous savez quoi, ça me fait rire, parce que le variant Delta est plus contagieux que l'autre. Et il y a quelques semaines, il y a 3 semaines de ça, un de vos collègues journalistes, sur le soir à 18h30, il a parlé du variant Delta qui arrivait en France. C'est super contagieux, mais on laisse venir les avions d'Inde. Donc, ça veut dire avec des gens qui sont potentiellement contaminés, parce qu'on les teste pas, eux, on les laisse rentrer en France.
Normalement, on doit les tester. En tout cas.
Normalement, on les teste pas. On les laisse rentrer. On les laisse rentrer, puis après on vous dit, puis votre collègue a parlé du nouveau variant qui est encore plus dangereux que celui-ci, c'est l'Epsilon ou Californien qu'ils appellent ça. Il faut y arriver un moment, il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des idiots quand même.
D'accord, vous n'y croyez pas en tout cas. Merci d'avoir témoigné, merci Yannick, passez une bonne journée, on va poursuivre cette conversation dans un instant avec Marie-France au 32 Nice.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Bonjour Marie-France.
Bonjour Christelle.
Soyez la bienvenue, vous êtes infirmière libérale du côté de Perpignan. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce pass sanitaire obligatoire pour se rendre à l'hôpital, pour visiter des proches ou pour se rendre dans les EHPAD?
Moi, je trouve ça affreux, je trouve ça ignoble. Il y a quelques mois de ça, on envoyait tout le monde à l'hôpital sans se soucier du personnel qui y travaillait. Des dizaines de collègues sont morts, puisqu'il y a des hommes et des femmes. On ne se souciait pas d'eux. Aujourd'hui, on met des barrières pour rentrer dans l'hôpital à des gens qui n'ont pas le choix. On ne peut pas vacciner comme on veut à Perpignan.
Oui.
Alors, il y a des centres partout, hein. Il y a des centres éphémères, il y a des centres qui sont fixes, mais il n'y a pas de place. L'annonce du président, nous, en libéral, moi je vais avec d'autres collègues, on a du mal à avoir des doses pour vacciner les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, on annonce des choses, mais on ne donne pas les moyens pour réaliser.
Donc,
comment voulez-vous, moi j'ai des patients qui ont 90, 92, 87, qui ne peuvent pas aller en centre.
Mais ils ne sont pas vaccinés, ces gens-là ?
Et comment voulez-vous qu'on les vaccine ? On n'a pas les vaccins disponibles.
Non, mais attendez, la vaccination à ces personnes-là, elle est ouverte depuis le mois de janvier.
Elle est ouverte, mais encore faut-il, nous, avoir des doses disponibles.
Vous n'avez jamais eu de dose depuis le mois de janvier ? J'ai du mal à vous croire, quand même, Marie-France.
Tout le monde, d'abord, ne veut pas se faire vacciner, mais on ne peut pas avoir les doses pour tous les gens qu'on veut vacciner. Là, il y avait des gens jusqu'à maintenant qui ne voulaient pas. Avec l'annonce du président, c'est obligatoire. On va dire ça comme ça, hein. Il ne faut pas se leurrer, c'est obligatoire maintenant de se vacciner. Mmh. Comment fait-on pour vacciner tous ces gens alors qu'on n'a pas accès aux doses ?
Donc vous souhaiteriez en fait qu'il y ait une dérogation et qu'on attende un petit peu avant d'en venir à ce système de passe sanitaire ?
Bien sûr, mettre en place d'abord toutes les vaccinations, enfin, tous les moyens possibles pour vacciner. Les doses, il faut que tout le monde ait accès aux doses. Nous, on ne peut pas, par exemple, les lycéens vont être obligés d'être vaccinés. Ils ne peuvent être vaccinés qu'en centre, parce qu'ils ne doivent être vaccinés.
Parce qu'il leur faut du Pfizer,
Il faut du Pfizer. À domicile, on a toujours pas les Pfizer.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Véran quand il dit que de toute façon, il faut sanctuariser à tout prix l'hôpital et que c'est ça l'urgence ?
Moi, je dis que l'hôpital doit rester un lieu ouvert pour tous les gens qui en ont besoin. On paye assez cher la sécurité sociale pour que ce soit ouvert à tout le monde. Je trouve pas ça normal qu'on ferme les hôpitaux, non.
Restez avec nous, Marie-France. Il y a aussi Nicolas qui nous appelle. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Christelle.
Soyez le bienvenu, Nicolas.
Merci.
Alors, vous êtes pour ou contre ?
D'une manière générale, je suis contre l'obligation, quoi. Parce que j'ai essayé aussi de vous joindre toute la semaine. J'ai pas réussi, mais aujourd'hui, j'ai réussi. Je fais juste un petit pas de côté.
Oui.
Si des fois, il y a des juristes qui entendent et qui pourraient peut-être répondre à cette question. J'ai vu que l'article 16 du Code civil, l'article dit « Le corps humain est inviolable par un tiers ». Alors, je voudrais bien savoir si c'est illégal d'obliger ou pas, quoi.
De vacciner, vous voulez dire. Ben, je pense que si c'était illégal, il n'y aurait aucun vaccin qui aurait réussi à passer le cap. Donc, je pense que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, j'entends bien que ça vous dérange. Restez avec nous. On a aussi Christelle qui nous appelle, qui est à Annemasse. Bonjour, vous êtes soignante.
Bonjour. Oui, absolument, je suis aide-soignante. Et donc, je suis intérimaire sur le territoire suisse, mais j'ai également travaillé sur France pendant la période Covid. Mm-hmm. Donc, moi, je suis pour le pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai travaillé en EMS, ce qui est l'équivalent des EHPAD en France. La plupart de nos résidents n'avaient pas de visite, donc forcément, chercher l'erreur, contaminé par nous. Donc, moi, je suis pour le pass sanitaire, parce que si les gens avaient été plus disciplinés, je pense qu'on n'en serait pas venu ici, quoi. Si les gens avaient respecté le port du masque, c'était désinfecter les mains continuellement. Moi, je vois sur Genève, dans le tram, les masques sont portés sous le nez, voire au niveau de la bouche, les mains désinfectées à l'occasion. Voilà. Bah, écoutez, tant que les gens seront indisciplinés, je pense que le gouvernement sera obligé de faire un peu du forcing.
Donc, donc vous êtes favorable au pass sanitaire, vous ?
Absolument, absolument. À cause de l'indiscipliné, à cause des gens indisciplinés. Mmh. Et de toute façon, si on se pose la question, à l'époque, dans les années 1800, quand le vaccin Pasteur est sorti, les gens, c'était ou le vaccin ou le cimetière. Et on se posait moins de questions. Donc là, je pense que les gens se laissent beaucoup monter la tête par les réseaux sociaux, se montent la tête les uns les autres, parce que j'appellerais les bobos bio-écolos, qui sont strictement contre et qui parlent de théories de complot. Voilà. C'est à cause de ces gens-là que j'ai catégorié d'illuminer un petit peu. C'est un peu méchant, hein, ce que je dis, je suis désolée.
Bon,
mais bon, voilà quoi.
Marie-France, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Christelle ?
Ben, c'est très radical, mais il faut vivre avec les patients qui sont solitaires et qui meurent de solitude. Si on se protège bien, on peut quand même rendre visite à sa famille en maison de retraite, à l'hôpital. Il y a eu tellement de gens qui sont partis seuls, dans un sac plastique, et les familles derrière sont traumatisées. Mmh. Et encore, maintenant, après des mois et des mois, ils en parlent encore, ils sont encore traumatisés d'avoir laissé partir sans même les voir, sans même avoir une parole. Y a des moyens de se protéger. Eh bien, on met des masques, on met des gants, on met des surchaussures, mais on n'empêche pas d'aller à l'hôpital.
Alors, les hôpitaux, oui, mais dans les EMS, dans les maisons de retraite, ça ne se fait pas, parce que normalement, c'est un lieu de vie, et sur les lieux de vie, on ne peut pas être aussi aseptisé. C'est juste pas possible. Enfin, moi, ça fait
jamais aseptisé. Écoutez, moi, je porte, quand je vais chez les patients, j'ai ma blouse d'infirmière avec moi, plus une surblouse, plusieurs des surchaussures, le calot, le masque PPF2, et j'ai quand même attrapé le
Covid.
Le corona, le Covid, le variant anglais.
Mmh. Alors écoutez,
Marie-France.
Donc je pense qu'il y a dû y avoir une erreur quelque part de ma part. Mais bon, même en étant protégée, je pense qu'on passe pas à travers tout ça.
Alors écoutez, voilà. Moi je pense que malgré tout, moi j'ai été très peu protégée au départ. J'ai eu le Covid deux fois. Par chance, je suis en excellente santé, donc voilà. J'ai perdu un ami de 48 ans, Olivier Lugan, je peux citer, hein, puisque maintenant ça a été connu, cette affaire s'est passée sur beaucoup de radios et tout. Ancien pompier de Paris et infirmier en région parisienne. Bon, il est décédé de ça. Mais attendez, il n'y a pas eu que le Covid. Il a attrapé dans ce même service un staphylocoque doré au poumon.
Il a été staphylocoque doré, on l'entend depuis des années et des années, le staphylocoque doré.
Mais voilà.
C'est un germe qu'on ne peut pas combattre. Parce que les résistances antibiotiques en milieu
hospitalier. Mais j'ai envie de dire quand même que certains soignants ont été laxistes et les gens,
Je ne suis pas d'accord avec les soignants. Pour les soignants. Écoutez, on n'a pas eu de matériel. Au début, tout le monde s'est battu pour avoir des tabliers, qui des blouses, qui des surchaussures, qui des masques. On a travaillé avec des masques pourris. Je dis le terme pourri parce que ça tombait en morceaux, nos masques.
Hein, oui, ça, je
donc,
suis d'accord.
N'allez pas dire que les professionnels ont été laxistes.
Mais je suis professionnelle, mais le lavage des mains, il y a du lavage des mains, je suis désolée, qui n'a pas été respecté. Moi, j'ai vu certains collègues à peine se laver les mains. Je suis désolée, mais le passage des bactéries passe aussi et en premier par le lavage des mains. Voilà.
Bien sûr, mais
on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mesdames. Pardon de vous interrompre, mais en tout cas, l'échange était passionnant. L'échange était très intéressant. Merci d'être intervenu sur RTL et d'avoir fait le 32-10. On fait une pause et puis on va jeter un nouveau coup d'œil du côté de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole.
Avec Christelle Rebière. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Rebière.
Et on repart à Tokyo, retrouver Isabelle Langer pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On en est, Isabelle, au défilé des délégations nationales.
Ah oui, ça va prendre un petit peu de temps. Oui. Il y a quand même 206 délégations qui vont défiler. Les premiers à entrer, ça a été comme de tradition, la Grèce hein, pour les Jeux antiques. Et les Français seront en avant-dernière position, juste avant le Japon, pays organisateur. Pourquoi en avant-dernière position ? Pas parce que la France organisera les prochains Jeux olympiques. Et lors de la cérémonie de clôture, le 8 août prochain, il y aura la passation du drapeau olympique entre le Japon et la France. Et moi, Christelle, avant de vous rendre l'antenne et d'attendre le flash de 14h, je voulais vous dire que je suis très très émue de que vous nous quittiez. Voilà.
Moi aussi. Vous me, là, moi aussi. Ça commence très fort. Merci, merci Isabelle. Allez, on va faire des chansons de l'été comme promis. On a Yolande qui nous a appelé au 3210. Bonjour Yolande.
Bonjour. Mais quelle nouvelle affreuse que vous quittiez RTL.
Non, non, c'est pas si affreux. Vous inquiétez pas. C'est la vie est très belle et c'est aussi une bonne nouvelle.
Tellement. Je vous aime tellement. Vous êtes sensationnelle. C'est tout.
Ça,
c'est gentil. Vous avez de l'empathie pour tous et un mot toujours gentil. C'est tout ce que j'avais à dire.
Merci Yolande. Vous nous parlez un peu de votre chanson quand même, ça va nous faire du bien.
Eh bien écoutez, voilà, ma chanson, moi, pour l'instant, la préférée, c'est la chanson de Patrick Fiori qui vient de sortir. C'est « On me love, love ». Voilà, « On se love » plutôt.
Comme la première
j'adore.
Lève-toi et tombe dans mes bras. Tes bras, mes bras autour de nos corps. Mon cœur qui se donne. Tes mains, mes mains sera plus fort.
Merci Yolande et on se love aussi dans ce studio. Merci d'être intervenue sur RTL. On a aussi Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour. Bonjour Christelle.
Vous êtes à Nantes. Alors, quelle est votre chanson d'été qui va nous faire du bien?
Alors moi je travaille encore un petit peu parce que je dessine pour les enfants, je fais beaucoup de dessins et ma chanson en boucle, c'est Le Reste de Clara Michel.
Le reste.
J'adore.
Moi aussi, vous n'êtes pas la seule, j'adore.
Ah, c'est vrai, vous l'adorez.
Et son dernier album est absolument merveilleux. J'écoute ça en boucle dans la voiture pour vous dire la vérité en ce moment.
Alors Christelle, moi ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas une chanson que j'ai choisie au hasard, parce qu'on sait que vous l'aimez cette chanson, on sait que vous l'adorez. Alors mille pardons aux auditeurs, c'est pas Émilie qui a pris l'antenne, c'est Bénédicte Tassard, la rédaction de
RTL. Mais je t'ai pas reconnue, c'est pas possible. Béné, tu as fait ça.
Parce que les auditeurs, eh bien, ils l'ont deviné. Tu vas partir, tu vas nous laisser.
Ah là
il faut
là.
Qu'il le sache. Alors, elle allait partir comme une petite souris, Christelle, avec quelques mots sobres, bien sûr, comme d'habitude.
Oui, mais vous y aurez droit quand même. Voilà. Vous
ça
inquiétez
fait combien
pas.
De temps que tu es à l'antenne de
RTL? Ça fait 19 ans en tout. En deux fois. Hein. Il y a eu une grosse coupure entre les deux, mais oui, ça fait 19 ans, donc c'est une grosse partie de ma vie, oui.
Voilà. Alors, la rédaction a décidé qu'on ne pouvait pas te laisser partir comme ça.
Oui.
On va rappeler pas mal de souvenirs ensemble.
Oui.
Pour te rendre hommage et puis pour que les auditeurs se souviennent avec toi. Et on va écouter Anne Le Hénaff et Sophie Jousselin.
La première trace de toi repêchée dans les archives de RTL, Christelle, remonte au 21 juin 1993.
Place au 7-8 avec Jacques Esnou et Christelle Rebière.
Donc Christelle, il y a de l'orage dans l'air.
Et oui, en ce premier jour d'été quand même, une fois n'est pas coutume, la moitié nord va profiter du soleil. Il fera 23 à Limoges, vous écoutez RTL sur 104.3.
Depuis, chez tu moi. As essoré les Encormen.
Christophe Ondelat.
Bonsoir à tous. Le journal pour commencer, Christelle Rebière, à la une.
À la une, un corps retrouvé à Nantes.
18h, 20h,
Nicolas Poincaré.
RTL Soir, première édition avec vous, Christelle Rebière, bonsoir.
Bonsoir, Maillet, ce nom désormais vous dira quelque chose.
RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h.
Elle n'est pas milliardaire, mais elle vous présente le journal, Christelle Rebière.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Chaque jour, tu as raconté le monde aux auditeurs de RTL, de l'actualité la plus légère.
En direct des 24 heures du Mans,
Christelle Rebière.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute d'RTL.
Aux événements les plus tragiques.
Et tout de suite donc ce massacre qui a donc eu lieu dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Deux hommes donc lourdement armés.
Pendant toutes ces années, on aura quand même bien rigolé.
Oui Christelle, tu le sais, il y a une tradition à RTL, c'est de faire le bêtisier de l'antenne chaque année. Donc ce matin, on les a tous réécoutés, ces bêtisiers. Eh bien, toi aussi, tu y as participé.
Oui.
Alors parfois, ta langue a fourché.
J'ajoute à propos du chômage, 400 suppressions de postes. Comme la musique adoucit les mœurs, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut favoriser l'apprentissage du chant.
Et puis un jour, tu nous as donné cette info très sérieuse.
Actuellement, les femmes gagnent encore 27% de moins que les hommes.
Bon, jusque-là, c'était clair, les femmes gagnaient moins que les hommes. Et puis, tu as trouvé malin d'ajouter ça.
À salaire égal.
Alors, pendant tes nombreuses années de présentation, évidemment, tu as connu quelques problèmes techniques, comme ce jour où ton invité n'était pas là.
Avec nous, pour aller plus loin, Gilles Carrez, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Gilles Carrez ?
Allô, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, ça va être à vous.
Ah, voilà, je crois qu'il arrive, en fait. Monsieur Carrez, installez-vous, vous êtes en direct sur RTL. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, donc on le voit, Christelle, hein, tu sais rester zen à l'antenne, mais hors antenne, parfois, tu t'énerves. Surtout quand tu te casses un ongle en studio juste avant le journal.
Oh merde ! Je suis ici pour péter un ongle.
Et puis ces dernières années, tu n'étais plus seul en studio. Pascal Pro était à tes côtés et vous nous avez gratifié de dialogues assez constructifs.
C'est dur à faire les crêpes ou pas ?
Très facile.
Ah bon ?
Je vous montrerai.
Oui, très simple. Mais quand ? Barbara Pravi ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Rien.
Merci.
Mais tous les deux, vous êtes à l'origine d'un des plus beaux fous rires de l'antenne. Pour les 40 ans du film Les Bronzés, Pascal a demandé aux auditeurs quelle scène ils préféraient. Et là, Christelle, eh bien, tu as pris la parole.
Quelle est votre scène culte préférée ?
Ah, moi, je peux vous dire, c'est la foune.
La foune.
La météo, Patricia Charbonnier, toujours aussi fraîche.
De la part de toute la rédaction et de tous les auditeurs qui vont.
Ah, merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux que le studio est plus assez grand, je pense.
Oui.
Je vous demande de vous arrêter, ça vous rappelle quelqu'un ? Bon, moi je voudrais vous dire un petit mot à tous. D'abord, je veux vous remercier, vous les auditeurs, vous remercier pour votre écoute, pour vos témoignages qui permettent de mieux comprendre ce pays qui est souvent complexe et un peu éruptif. On a ri parfois ensemble, on a pleuré aussi. Et j'oublie pas les attentats de 2015 qui nous ont vraiment tous beaucoup marqués, beaucoup blessés. Merci à tous ceux que vous entendez, tous ceux qui sont en studio là aujourd'hui, tous ceux qui sont en vacances aussi mais qui nous écoutent sans doute et qui font l'originalité d'RTL. Les reporters, les correspondants région, curieux, infatigable. Les techniciens, réalisateurs sans qui notre travail n'aurait pas le même relief. Les rédacteurs en chef qui construisent un récit du quotidien à l'antenne dans nos différents rendez-vous d'information. Les programmateurs, assistants qui nous servent aussi un peu de nounou. J'ai une pensée pour Laurent Tessier qui m'accompagne sur RTL Midi depuis 7 ans. Et c'est l'homme qui travaille plus vite que son ombre. J'ai une pensée pour Sophie qui supporte chaque jour mon côté psychorigide dans un grand éclat de rire. J'ai une pensée pour Greg qui réalise cette émission et qui est vraiment un magicien des ondes.
Je vous demande de vous arrêter.
Voilà, un magicien, c'est ce que je vous disais. Merci à tous ceux qui sont l'âme de cette maison, avec qui on construit des émissions délocalisées, des campagnes de com, le maquillage, les photos de rentrée, c'est toujours toute une affaire, qui nous accompagnent à l'entrée chaque jour avec le sourire, qui nous servent des cafés en douce, qui montent et démontent sans cesse des cloisons sans qu'on comprenne franchement pourquoi. Merci à ceux qui ramènent toujours un petit vin de pays, un saucisson ou des bretzels pour qu'on refasse le monde cul sec. Alors à tous, ne changez pas, soyez fidèles à nos valeurs, l'impartialité, la rigueur, l'excellence, mais aussi la solidarité, la bienveillance, l'écoute. Il y a la vôtre, chers auditeurs, il y a la nôtre. Voilà, j'ai passé 19 ans dans cette maison qui m'a vu grandir, ça a rythmé ma vie, ça m'a rendue très heureuse. Je vous laisse, je vais poursuivre ma belle aventure sur d'autres ondes dans une maison toute ronde. La vie est belle.
Ouais.
Les auditeurs ont parlé avec Christelle Robier.
RTL, il est 14h01.